VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Bonjour à tous, il est 5h en temps universel, bienvenue. Les Kenyans retiennent leur souffle dans l'attente aujourd'hui du verdict de la Cour suprême sur la validité ou non de l'élection présidentielle du 8 août, remportée par le président Uhuru Kenyatta, mais que l'opposition estime entachée de multiples irrégularités. Monsieur Kenyatta, âgé de 55 ans, élu pour la première fois en 2013, avait été proclamé vainqueur par la commission électorale le 11 août avec 54,27% des voix contre 44,74%. Au vieil opposant Raila Odinga, âgé de 72 ans, déjà battu en 1997, 2007 et 2013. Dès le lendemain du scrutin, la coalition d'opposition à la NASA avait dénoncé des fraudes et s'était résolue le 18 août à saisir la Cour suprême. Le jugement rendu par l'instance composée de 7 juges sera définitif. L'heure de l'énoncé de la décision très attendue n'est pas connue. Le président de la Cour, David Moraga, a simplement indiqué qu'elle serait communiquée vendredi. Date limite prévue par la Constitution. Les autorités de la République démocratique du Congo ont promis hier de publier incessamment un calendrier électoral réaliste après avoir recensé plus de 40 millions d'électeurs, soit 98% du corps électoral. Les trois autorités qui ont signé la promesse sont la CENI, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur Emmanuel Ramazani Shadari et le Conseil national du suivi de l'accord, la CNSA. L'accord prévoit l'accord pouvoir-opposition du 31 décembre 2016 prévoit des élections avant fin 2017 pour le départ et la succession du président Joseph Kabila qui ne peut plus se représenter depuis la fin de son deuxième mandat le 19 décembre. Le communiqué confirme que l'enrôlement dans les deux dernières provinces du Kasaï commencera le lundi 4 septembre. Ces deux provinces sont le théâtre de violences depuis un an. Fin de parcours pour la mission des Nations Unies en Haïti. Le dernier contingent de casques bleus composé de militaires brésiliens a plié bagage hier à Port-au-Prince. La MINUSTAH avait été déployée en 2004 après le départ du président Jean-Bertrand Aristide pour aider à endiguer la violence principalement enregistrée dans la capitale, mais elle n'a jamais su gagner la confiance des Haïtiens. En avril, le Conseil de sécurité de l'ONU a décidé de mettre fin à 13 années de présence des casques bleus en Haïti. La résolution adoptée à l'unanimité prévoit la fin de la MINUSTAH d'ici au 15 octobre. La MINUSTAH sera remplacée par une nouvelle mission baptisée Mission des Nations Unies pour le soutien de la justice en Haïti, la MINUJUST, qui sera chargée de former la police haïtienne.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Quelques 100 000 foyers ont été touchés par les inondations provoquées par l'ouragan Harvey dans le sud des États-Unis, selon la Maison-Blanche. Les accalmies dans les précipitations ont permis d'accélérer les secours. Plusieurs États ont envoyé du personnel médical et des secouristes pour assister leurs collègues au Texas. Pendant ce temps, des milliers de sinistrés qui ont perdu leur maison compte désormais sur la solidarité des Américains. Plusieurs organisations sont à pied d'œuvre pour collecter des dons pour les victimes de Harvey. La Russie a jusqu'à samedi pour fermer son consulat à San Francisco, alors que se poursuit l'alternance des sanctions et des représailles entre Moscou et Washington, dont les relations sont au plus bas. Washington a ordonné jeudi la fermeture du consulat au nom de la parité, mais Moscou a aussitôt déploré une escalade. Le département d'État américain a annoncé que la Russie devrait fermer d'ici samedi son consulat général à San Francisco et ses missions commerciales à Washington et New York. Cette décision en réponse de la récente réduction drastique du personnel des représentations diplomatiques américaines en Russie a été prise dans l'esprit de parité invoqué par les Russes, a assuré le département d'État, espérant donc qu'elle n'entraînerait pas de nouvelles représailles. Et puis, pour terminer, l'ex-guérilla des FARC qui a signé la paix après plus d'un demi-siècle de conflits armés en Colombie s'est donné jeudi un nouveau nom qui symbolise sa reconversion en parti politique légal. Les anciens rebelles n'ont toutefois pas abandonné l'acronyme FARC ni son identité révolutionnaire qui se décline désormais en force alternative révolutionnaire commune, a écrit sur Twitter le chef de l'ancienne rébellion marxiste Rodrigo Londoño alias Timochenko. L'ex-guérilla est en congrès depuis dimanche à Bogota. Quelques 1200 délégués venus des anciens fiefs de la rébellion préparent leur intégration à la vie civile. Ils devraient finir cette semaine les statuts et les candidats de ce parti aux élections pour 2018. Jean-Roger Billon, le prochain journal dans 25 minutes.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.